Radio Cabine, Grand Témoin.
Ancien ambassadeur du Royaume de Belgique à Kigali, au Rwanda, à La Haye, aux Pays-Bas et à Kinshasa en RDC, Johan Swinem est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir chez vous.
Merci à vous.
Vous êtes Samamba en RDC où vous avez passé 4 ans. Nous allons faire le point de votre séjour ici ainsi que de votre carrière. D'août 90 à avril 94, vous êtes ambassadeur à Kigali au Rwanda. Avril 94, vous le savez, correspond au début du génocide rwandais où près de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés. En tant qu'ambassadeur, pensiez-vous que ce drame pouvait être évité?
Ça, c'est difficile à dire. On a été en présence d'une tragédie. Je l'ai vu arriver. La question que je me pose toujours, et même tous les jours, en relisant mes rapports, il y a eu beaucoup d'avertissements. Il y avait des ingrédients d'une déstabilisation tragique. La polarisation de la vie politique, la radicalisation, entraînement de milices, abusion d'armes. On était très inquiets. Je parle de la communauté internationale, parce que la communauté internationale a été interrogée, interpellée, jusqu'aujourd'hui, à juste titre, je dirais. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il faut faire des efforts renforcés, supplémentaires, pour connaître la vérité, pour trouver la vérité. J'ai été appelé à plusieurs reprises comme témoin, y compris au tribunal international sur le Rwanda, à Arusha, et je dis toujours, ayons l'honnêteté et le courage, intellectuel et moral, pour admettre que nous ne savons pas encore beaucoup de choses sur ce qui s'est passé entre 90 et 94. Par exemple, l'attentat contre l'avion présidentiel. La responsabilité de cet attentat. Est-ce qu'on a mené jusqu'à présent une enquête officielle, internationalement mandatée, sur cet attentat? Je m'indigne.
Le génocide a donné lieu au problème des FDLR, qui constitue aujourd'hui une vraie pierre d'achoppement entre la RDC et le Rwanda. Comment peut-on, à votre avis, résoudre cette question?
Un mot que j'utilise souvent, la décrispation, le dialogue. Essayer de comprendre l'un et l'autre, se responsabiliser. Pour ce qui concerne la pacification à l'Est, bien sûr, la responsabilité des Congolais est très grande pour s'engager dans le dialogue. Le processus Amani a lancé cette dynamique. Pour ce qui concerne le problème des FDLR, Ex-FAR, Interahamwe, il y a Nairobi qui a lancé la dynamique, ou relancé la dynamique. Ce qui me préoccupe le plus, c'est la question de savoir est-ce qu'il y a une véritable volonté politique pour résoudre la question. Par exemple, en ce qui concerne le retour des FDLR, je me pose depuis longtemps la question, mais est-ce qu'on a fait jusqu'à présent suffisamment d'efforts politiques pour résoudre ce problème? Est-ce que ce problème ne doit pas subsister pour servir certains intérêts, la déstabilisation ou le manque de stabilité dans le nord et le sud Kivu et ailleurs dans le pays? Est-ce que cette instabilité ne doit pas profiter à certains intérêts, économiques notamment? Ce sont des questions qui doivent être abordées avec beaucoup d'honnêteté, mais surtout avec beaucoup de volonté politique. Et pas seulement, je parle de la responsabilité des Congolais, mais il n'y a pas que la responsabilité des Congolais. Et notre gouvernement, notre ministre des Affaires étrangères, moi-même, nous référons souvent à la responsabilité, également celle des autres acteurs politiques et militaires importants dans la région tout entière. Et on assiste maintenant à une prise de conscience, une plus grande, plus forte sensibilisation pour faire porter, pour faire aboutir le dialogue.
Aujourd'hui, la RDC est à couteau tiré avec le Rwanda. Certes, il y a des efforts dans les deux sens qui sont fournis pour les améliorer. Que faut-il, à votre avis, pour normaliser ces relations de façon pérenne? C'est toujours un problème de volonté politique?
Absolument. Je crois qu'il n'y a pas seulement cette volonté politique, il y a aussi la matérialisation, le fait de le montrer, la manifestation de cette volonté politique. Et je crois qu'il y a du progrès. Ce qu'il faut, par exemple, je parlais de FDLR, il est important, il est même crucial que les candidats au retour reçoivent des signaux rassurants, plus rassurants encore, que l'accueil au Rwanda sera correct. Bien sûr, les génocidaires, nous banalisons pas les choses. Les génocidaires doivent être identifiés et doivent être punis. Le droit, la justice doit être là pour juger. Mais pour ceux qui n'ont rien à craindre, qui n'ont rien à se reprocher, il y a des gens qui étaient petits-enfants ou qui n'étaient même pas encore nés en 94 et qui aimeraient, peut-être qu'ils ne veulent pas tous rentrer. Il y en a qui se sont intégrés ici et qui ne font pas de mal aux populations congolaises. Que ceux, au moins, reçoivent des signaux encore plus convaincants du côté rwandais. Du côté congolais, vous savez que la Belgique, la Commission européenne, mais aussi les autres membres de l'Union européenne plaident beaucoup pour la relance de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce que nous constatons maintenant? Le ministre des Affaires étrangères, Alexis Tambwe, a annoncé que les fonctionnaires du secrétariat exécutif de la CEPGL, les fonctionnaires qui doivent être fournis, si je peux dire, par la RDC, seront connus, seront annoncés. Pas encore qui les fonctionnaires, pas le plus haut fonctionnaire congolais, donc le secrétaire exécutif adjoint. Mais c'est déjà un pas.
En octobre 2004, vous arrivez comme ambassadeur de Belgique à Kinshasa. En 2006, c'est le début du processus électoral que la Belgique a accompagné aussi jusqu'aux élections présidentielles et législatives. À ce jour, quelle lecture pouvez-vous faire de la préélection en RDC?
J'entends des amis congolais qui nous disent « Oui, mais il y a les élections ». Nos institutions, c'est quand même quelque peu imposé par la communauté internationale. Non, non, non. Et les élections, l'élan démocratique, la réforme démocratique, la modernisation institutionnelle, je dirais, de la société congolaise, c'est la volonté des Congolais. Si nous avions eu le moindre doute quant à l'engagement, quant à l'engouement des Congolais pour ces élections et pour cette réforme démocratique, nous n'aurions pas agi de la sorte. Ce n'était que encouragé par cette volonté du peuple congolais que nous nous sommes dit on va accompagner, pas dicter, pas imposer, nous allons accompagner. Et ce processus a réussi. Il y a eu des élections, il y a eu la mise en place des institutions. Nous sommes en présence d'institutions qui fonctionnent tant bien que mal. Bien sûr, c'est une jeune démocratie. Nous ne pouvons pas attendre que cette démocratie soit pleinement mûre ou mûrie. Même notre démocratie européenne. Mais c'est une œuvre quotidienne, un combat quotidien que nous devons, j'allais presque dire, réinventer, animer, crédibiliser tous les jours. Ici, la même chose. D'autant que cette démocratie est jeune et avec de la patience, nous devons l'approcher et continuer à l'accompagner dans la mesure où les Congolais, les dirigeants et ceux qui peuplent les institutions du pays nous le demandent, nous sollicitent. Et cette sollicitation, elle est là.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir des 7h, heure de Kinshasa.
Johan Schwinen, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur du Royaume de Belgique à Kigali au Rwanda, à La Haye aux Pays-Bas et à Kinshasa en RDC. De septembre 1976 à janvier 1977, vous travaillez dans l'administration centrale belge. de janvier à juin 77, vous êtes vice-consul à Barcelone en Espagne. De juillet à août 77, vous revenez dans l'administration centrale. D'août 77 à janvier 78, vous faites une mission permanente auprès des Nations Unies à New York dans le cadre de l'Assemblée Générale. Dans la crise actuelle en RDC, certains spécialistes se demandent est-ce que la voix de la Belgique pèse sur le plan des nations pour la résolution de cette situation. Par exemple, avec le cas de l'envoi d'une force européenne en RDC, on a l'impression que la Belgique tergiverse.
Cette question m'a encore été posée dans une autre interview. Il y a un pays qui ne tergiverse pas. C'est bien la Belgique. La Belgique est en train de défendre toute seule cette force relais, force jonction, que nous souhaitons voir mise en place avant que la MONUC s'élargisse, avant que les 3000 troupes supplémentaires n'arrivent.
Apparemment, la Belgique a du mal à convaincre les autres pays de l'Union européenne dans cette impulsion.
Mais il y a eu déjà plusieurs réunions au niveau du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne. On en discutera à la veille du sommet européen qui se tient régulièrement, mais il y aura un effort tout particulier, bien concentré sur la situation à l'est du Congo. Jusqu'à présent, on a eu du mal à convaincre les autres pays, mais nous ne nous décourageons pas pour autant, parce que nous croyons fermement, bien sûr il ne faut pas être naïf, il faut bien examiner ce que peut faire cette force intérimaire. Il ne suffit pas de parler de l'urgence et de la nécessité, il faut parler aussi de la faisabilité, hein, et comment cette force européenne se positionnera par rapport à la MONUC, à quel endroit, avec quelle tâche précise, avec quel type de troupes, avec quel type de logistique, hein. Donc on n'est pas dupes, hein, de notre propre volontarisme et activisme, je dirais même.
De janvier à août 78, vous travaillez encore dans l'administration centrale. D'août 78 à juillet 82, vous êtes attaché d'ambassade à Bujumbura au Burundi. La Belgique et la RDC entretiennent des relations souvent tumultueuses. Comment les améliorer de façon durable?
Oh, de façon durable, c'est pas évident. Mais si de façon durable, au moins, nous pouvons être certains que les Belges et les Congolais forment un ménage, une famille, où on se sent bien, où on se ressemble, où il y a une confiance. Les Belges et les Congolais ne se détestent pas, que du contraire. Il y a une amitié très solide. Ça fait 4 ans que je vis au Congo, j'ai vécu dans la région, vous l'avez dit. Je vois cette convivialité. Mais ça entraîne aussi de temps en temps des malentendus, des attitudes désagréables, des déclarations qui ne sont pas appréciées, qui blessent de part et d'autre. Mais nous devons pouvoir vivre avec ça. Nous ne devons pas tout de suite crier panique, crier scandale lorsqu'il y a eu un incident. Ça arrive, ça ne va pas arriver trop souvent, bien sûr, mais c'est maîtrisable. Je ne dirais pas que je serais heureux et que je ne souhaite pas mieux à ce qu'on se querelle. Non, bien sûr. Hein. Il faut vivre et se développer dans l'harmonie. Mais quand cela arrive, sans banaliser ces choses-là, et il doit y avoir moyen de surmonter ces difficultés.
De septembre 82 à août 86, vous êtes secrétaire d'ambassade à la mission permanente auprès des Nations Unies à New York. Que répondez-vous à certains analystes qui soutiennent que la RDC est victime du conflit entre les pays européens et la Chine, surtout en ce qui concerne le partenariat RDC-Chine?
Vous parlez assez facilement de la victimisation du Congo. Maintenant, vous dites que le Congo est victime d'une rivalité, si j'ai bien compris votre question, entre les Européens, les Occidentaux et la Chine. Je réponds deux choses. Un, il n'y a pas de rivalité. Je n'ai jamais bien compris pourquoi une certaine presse, une certaine opinion au Congo a parlé de mauvaise humeur, de mécontentement, même de rejet de la part de ces partenaires-là vis-à-vis des efforts et de l'implication chinois. Il y a recherche de synergie, de complémentarité. si les Chinois construisent une route ou réhabilitent une piste qui permet aux paysans du Sankourou d'écouler ses produits, de commercialiser ses produits, de s'assurer un revenu, plutôt que de devoir laisser pourrir les récoltes dans les champs. Alors, nous applaudissons. Le Congo a fait appel à beaucoup de partenaires, hein, parce que le pays est immense et le travail est gigantesque. Hein. Les investissements étrangers sont vraiment urgemment nécessaires. Deux, je dirais, les Congolais, les autorités, comme d'autres niveaux de la société, ont tendance à référer assez facilement hein, à la responsabilité de la communauté internationale, de l'Europe, des Occidentaux, des Nations Unies, de la MONUC. Pour une part, c'est vrai, et pour parler au nom des Belges, nous sommes tout à fait ouverts pour un débat, hein, un examen de conscience. Est-ce que nous sommes en train de bien faire? Est-ce que nous avons bien identifié notre rôle ici? Est-ce que nous ne devons pas revoir la méthode? Est-ce qu'il ne faut pas veiller à certaines attitudes, un certain discours? Donc, l'autocritique est nécessaire. Et je dirais que, du côté congolais, on se serait bien accepté et bien vu si on entendait plus souvent, du côté congolais également, un examen de conscience. Au lieu d'entendre dire, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous êtes si frileux? Pourquoi vous n'êtes pas là quand nous avons besoin de vous? Pourquoi vous nous avez abandonné? Est-ce qu'il n'y a pas moyen non plus de se demander que fait le Congolais pour son pays? Le patriotisme congolais dont j'aime bien parler, comme un ingrédient absolument indispensable. Je dirais que ça viendra avec beaucoup d'autant plus de conviction et de crédibilité que les périodes par lesquelles le peuple congolais est passé ont été très, très difficiles et très dures.
Radio Capine, grand témoin.
De septembre 86 à août 88, vous restez comme secrétaire, ensuite premier secrétaire d'ambassade à Athènes en Grèce. Puis de septembre 88 à août 90, vous revenez une fois de plus dans l'administration centrale comme porte-parole, chef du service de presse. Nous le disions, vous arrivez en RDC en 2004, vous êtes un mandat aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de la culture congolaise de façon générale?
Oui, la culture congolaise qui est une culture très riche. Je me suis rendu avec mon épouse, avec mes collaborateurs, à l'intérieur du pays. Et j'ai vu la créativité artistique, culturelle, linguistique, même la richesse de vos langues, y compris le français, est impressionnante. J'adore suivre les débats de l'Assemblée nationale ou du Sénat, lorsqu'ils passent en direct à la télé. Je m'abreuve, en quelque sorte, à cette culture de la parole bien trouvée, bien choisie, et cette inventivité. Vous inventez aussi en français des expressions qui sont très charmantes, très spirituelles, très humoristiques, et c'est très, très riche. Et c'est un plaisir.
Vous parliez de la langue. Est-ce que vous connaissez un mot de Lingala ou de Swahili ou d'une autre langue?
Oui, oui, beauté Nabino, Accenti, Jambo, mais c'est très limité. C'est très limité et je me souviens très bien du discours d'adieu de notre ancien consul de l'ambassade de Belgique, Benoît Standard, lorsqu'il disait « S'il y a une chose que j'aurais voulu et dû développer davantage, c'est la connaissance des langues du pays. »
En ce qui concerne la musique, si on vous demandait une chanson, ce serait laquelle?
Ah là, vous me posez une colle. J'ai ici beaucoup de disques. J'aime beaucoup écouter la musique congolaise qui est très entraînante. J'ai rencontré il y a quelques semaines, lors de la fête du 20e anniversaire de la Chambre de commerce belgo-congolaise, Papa Wemba. Je suis très lié à l'ancien vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Taboulé. Oui, quand j'étais à son premier concert auquel j'ai assisté, je trouvais rien que ce rythme très doux, mais très sympathique et très entraînant. Et un jour, il a chanté lors d'un déjeuner avec notre ministre de l'Intérieur. C'est un atout.
Bana alezalinanga bongetoni na miso posa ya mai ebebisinga mongongo nakokanga motema na tala na miso lokola ekosemaka masuwa ya libongo ya lipoko soki nalakiti lipoko anzambe nde natoli yo se botoli ye likambo mamele nakotenda liboso nakotaka perio nabenda kopo ya mio mpo na nde mobimba sasankato eleki nga na mai mpe nazali se kosiola ye lipopo okokaki mibale mpo bakoko batika mpe tozali kolanda ye Africa biasa ako lingisana vizabi mongo yao Bala boka bako mea na kamerio Bona ne kole kao bona ne moyo ne mawao Nelona popa mana ko viva nage Bala boka o
Vous.
Pour maintenant, je crois que j'ai pas changé. Je suis de caractère optimiste. Je suis un actif. J'ai besoin d'un peu de stress pour bien fonctionner. Sinon, je serais un paresseux. J'ai voulu bien dans un contexte où il y a des défis à relever. Je suis un ambitieux. Quand j'étais jeune scout, je voulais absolument être chef de patrouille, mais pas seulement pour être chef, hein. J'étais un garçon timide et discret. En m'observant, vous pouvez facilement imaginer comment j'ai été enfant.
En ce qui concerne vos études, vous êtes docteur en droit de la catholique Université de Leuven. Vous avez une licence en notariat de la même université. Vous avez également un certificat d'études supérieures en droit international de l'Institut universitaire de hautes études internationales à Genève en Suisse. Qu'en est-il de ce qu'on appelle ici vos études secondaires?
J'ai fait les gréco-latines. On ne peut pas faire des études plus classiques. Mes enfants, pas tous les enfants. Il y en a un ou deux qui ont fait... Ils n'ont plus étudié le grec, bien que nous ayons vécu en Grèce pendant 2 ans. Mais ils n'ont pas tous étudié le latin non plus. Et je trouve ça un peu dommage. Mais entendons-nous bien, nos enfants... jusqu'à présent, et c'est ça une source de bonheur et de joie. Ils vont très bien, ils ont fait des études universitaires. Le dernier termine ses études cette année-ci. J'ai 4 enfants, ils sont pas ici, ils sont en Europe. Les 3 aînés sont mariés. Nous sommes, ma femme et moi, grands-parents de 5 petits-enfants. et j'espère que ça continue. D'ailleurs, depuis notre arrivée ici, depuis 2004, chaque année, nous avons eu un petit enfant. Je ne sais pas ce que 2009 nous réserve. Je ne suis pas dans les secrets de nos enfants et de nos beaux-enfants, mais nos enfants étaient avec nous à Bujumbura et à Kigali. Ils nous ont visités ici. Tout comme nous, leurs parents, ils sont amoureux du Congo. Ils adorent venir ici, ils sont venus plusieurs fois. Mais nous sommes contents également, comme je disais avant, je l'ai répété souvent les derniers jours, ma femme et moi qui avons été très heureux ici au Congo, malgré toutes les turbulences et difficultés que nous avons connues, que nous connaissons encore, nous avons été très contents et très heureux. Nous n'avons pas envie de partir, mais nous sommes quand même heureux de la nouvelle destination et du nouveau défi parce que on se rapproche des enfants et des petits-enfants. Madrid est un poste magnifique, d'autant que nous réintégrons, pour ainsi dire, l'Europe. Je suis content de professionnellement pouvoir contribuer à ce travail, mais aussi à continuer à œuvrer pour que la fenêtre entre l'Europe et l'Afrique, entre la Belgique et le Congo, la Belgique et l'Afrique centrale, reste grande ouverte.
Vous entrez dans la carrière diplomatique le 1er septembre 1976. Qu'est-ce qui vous y a attiré alors que le droit vous prédisposait à faire autre chose, la magistrature, le barreau?
Quand j'ai fait mes études de droit, j'avais envie de faire beaucoup de choses. J'étais en doute. Est-ce que je serais avocat? Je trouve ça un très beau métier. J'ai un frère avocat. Mon beau-fils est avocat à Bruxelles. J'avais envie d'être avocat. J'avais envie d'être journaliste. J'ai beaucoup rêvé du métier de journaliste, même quand j'étais déjà en poste universitaire à Genève. J'ai rêvé aussi d'une carrière académique. Et la diplomatie, c'est venu plus tard. Finalement, j'ai vu un ambassadeur au travail, un ambassadeur de Belgique, à Genève, pendant mes études de doctorat. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait ça bien? Quand on découvre un métier ou une vocation, à travers une personne physique, de par son comportement, de par sa disponibilité, en un mot, de par la façon dont il vit sa profession, ça peut être très convaincant. Et j'ai trouvé quelqu'un comme ça, pour ne pas le citer, l'ambassadeur Van Bellingen, qui a été ambassadeur, après Genève, auprès de l'ONU, a été ambassadeur ici, à Kinshasa, dans les années début 80, eh bien, c'est surtout lui, et bien sûr aussi beaucoup d'autres personnes et de facteurs, et peut-être mes propres gènes qui m'ont poussé vers ce métier.
D'août 2002 à septembre 2003, vous travaillez dans l'administration centrale comme directeur exécutif de la Conférence internationale sur le fédéralisme et ambassadeur pour les relations avec les pays voisins. Vous le disiez, vous quittez la RDC, vous allez à Madrid en Espagne. Là, vous aurez quelle fonction?
À Madrid, je serai ambassadeur, chef de poste. Le poste est plus petit que celui-ci. D'ailleurs, Kinshasa est notre plus grande ambassade bilatérale.
Johan Swinen, 62 ans, 32 ans de carrière diplomatique. Pour clôturer cette émission, quel message pouvez-vous adresser à tous les Congolais qui vous suivent?
Eh bien, vous m'accordez beaucoup d'honneur en me demandant de formuler un message. Je suis surtout venu pour vivre avec vous, pour vibrer avec les Congolais. Bien sûr, vibrer comme un patriote belge, parce que je représente le roi des Belges, et le gouvernement et le peuple belge. Mais au bout de 4 ans, je suis devenu aussi un patriote congolais. Et je crois vraiment dans l'avenir de ce pays. Dans la mesure où ce pays retrouve cette dignité dont je parlais tout à l'heure, et retrouve une discipline, retrouve une gouvernance, retrouve des gens qui ont également le réflexe du bien commun, de l'intérêt général. Pour justement alimenter un patriotisme congolais, je dirais, cette ambition est légitime et doit être cultivée. Et j'y crois. C'est en train de venir. Il y a des dynamiques qui se développent, malgré tous les doutes et hésitations qui puissent encore exister. Par exemple, la corruption, tandis qu'il y a quand même une pauvreté extrême qui sévit encore dans pas mal de coins du pays. Mais malgré tout cela, je crois dans l'avenir de ce pays. Et donc, mon message, confiance.
Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir reçu Grand Témoin chez vous.
Tout plaisir était pour moi. Merci beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Johan Swinen, ancien ambassadeur du Royaume de Belgique à Kigali au Rwanda, à La Haye aux Pays-Bas et à Kinshasa en RDC. À la présentation Alain Hironde, retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent dans la ville province de Kinshasa et partout dans le monde.